Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 2. 25 juillet 2025. La situation était inédite. Les Japonais voulaient le nom du responsable de la perte de leur télescope, pour qu'il leur rende des comptes, et surtout pour qu'il rembourse la perte financière qu'ils avaient subie. C'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Il fallait, pour commencer, déterminer quel type de débris avait pu causer la fragmentation de X-Rism, c'est-à-dire quelle taille et quelle masse il pouvait avoir pour produire les 213 morceaux de plus de 10 cm qui entouraient maintenant le télescope défunt. Il fallait également calculer quelle était sa trajectoire, et c'était certainement le plus important pour comprendre l'origine probable de cet impact. La décision avait été prise rapidement au plus haut niveau de la JAXA. Une équipe de modélisateurs avait été mise en place. Ils avaient pour objectif de reproduire par simulation l'impact qu'avait subi X-Rism en faisant varier les paramètres orbitaux et les caractéristiques du débris impacteur jusqu'à trouver le meilleur accord avec les débris du télescope qui étaient observés et désormais suivis de près. Des volontaires furent demandés au sein du service d'aérologie pour participer à ce groupe d'études et fournir des données sur les effets de freinage qui pouvaient impacter certains satellites, surtout au début de leur insertion en orbite, et encore plus lors d'une éruption solaire comme celle qui avait eu lieu. Même s'il fallait le prendre en compte, ce n'était pas le freinage atmosphérique accru de X-Rism lui-même qui était en question ici, bien incapable de mener à une fragmentation en l'espace de quelques heures. Les ingénieurs japonais voulaient savoir, en revanche, si une anomalie de trajectoire lors de l'insertion orbitale d'un petit satellite, qui aurait eu lieu à ce moment-là, n'aurait pas pu le conduire à une collision avec le télescope à rayons X. Avec la rencontre de débris anciens résiduels, c'était le second scénario qui était envisagé. Les ingénieurs japonais se souvenaient qu'en 2009 avait eu lieu la première collision entre deux satellites de communication en orbite basse. Le satellite américain Iridium 33, qui était alors en activité, avait percuté le vieux satellite russe Cosmos 2251, qui était inactif depuis longtemps. Cette collision avait par ailleurs produit plus de 18 000 gros débris, sans compter l'immense masse engendrée de débris de plus petite taille. Les premiers calculs grossiers indiquaient que le débris impacteur de X-Rism, en fonction de ses paramètres d'impact, qui n'avaient pas encore été calculés avec précision, pouvait avoir une taille comprise entre un boulon et un petit satellite de communication, de type satellite de constellation. Lorsque leur chef de service leur demanda qui était volontaire pour participer à ce groupe d'études que l'ISAS mettait en place, Keiko ne réfléchit pas longtemps. C'était elle qui avait vu en direct la destruction de X-Rism, et elle se sentait le devoir d'aider à trouver l'origine de cet impact, comme elle avait essayé de le faire dans les heures qui avaient suivi cet instant funeste. Après s'être portée volontaire, Keiko fut rapidement mise en contact avec le responsable de la cellule d'investigation, qui était le nom officiel de ce groupe d'une trentaine d'ingénieurs et de chercheurs spécialistes de différents domaines, depuis les calculs de trajectoire jusqu'à la thermique, en passant par la physico-chimie et l'aérologie. Celui qui avait été nommé à la tête de la cellule par la direction de la JAXA et de l'ISAS n'était autre que Takeshi Watanabe, que Keiko connaissait un peu. C'était le chef du service d'études des risques au sein de l'ISAS, quelqu'un de très rigoureux, mais toujours à l'écoute, à l'affût du moindre détail insignifiant qui pouvait révéler quelque chose de plus important. Il était notamment l'un des nombreux destinataires prévus du rapport que Keiko était en train de terminer au sujet des variations de densité atmosphérique liées aux éruptions solaires, pouvant entraîner une décroissance orbitale prématurée. Mais cette note ne sortirait pas tout de suite, puisque Keiko avait été missionnée officiellement dans la cellule d'investigation, et elle devait immédiatement mettre de côté son activité habituelle pour se consacrer à 100% aux investigations. C'étaient les ordres de la hiérarchie. Le rapport d'étude pouvait attendre. La compréhension de l'origine de la destruction de X-Rism ne le pouvait pas. La première réunion de la cellule eut lieu le soir même dans la grande salle de réunion du siège de l'ISAS à Sagamihara. Les différentes pistes d'investigation furent présentées, avec pour chacune d'elles le rôle attendu de chacun et le planning qui était attendu. Une dizaine d'ingénieurs et de chercheurs spécialistes étaient affectés aux diverses modélisations et simulations d'un impact sur le télescope. Pour cela, ils utiliseraient un jumeau numérique du télescope qui avait la chance de déjà exister. Ce jumeau numérique représentait avec exactitude l'instrument dans ses moindres détails, jusqu'à la peinture qui recouvrait les parties les plus sensibles au rayonnement thermique. Une dizaine d'autres eurent la charge de rechercher dans les catalogues et dans les observations les plus récentes tous les débris susceptibles de croiser l'orbite de X-RISM, ceux de plus de 10 cm, mais aussi ceux moins bien caractérisés qui pouvaient faire entre 1 cm et 10 cm, voire moins de 1 cm. Et il fallait aussi pouvoir mettre un nom sur chacun de ces débris pour pouvoir nommer le coupable. Quant à Keiko, elle fut chargée d'un aspect très particulier qui concernait les plus gros débris auxquels les responsables de l'Institut avaient songé, des satellites entiers. Sachant qu'il venait d'y avoir une grosse éruption solaire avec éjection de masse coronale, ayant atteint la Terre au moment de la perte de X-RISM, et Keiko étant spécialiste des effets indirects que de telles éruptions pouvaient provoquer sur les satellites en orbite basse, Takeshi Watanabe lui confia la mission de déterminer si un satellite en cours d'insertion orbitale, à ce moment-là, aurait pu être perturbé par l'éruption solaire d'une manière ou d'une autre, ce qui aurait pu produire une trajectoire incontrôlée qui l'aurait mené à une collision. Keiko trouvait l'idée brillante et elle s'en voulait de ne pas y avoir songé elle-même avant. Plutôt qu'un effet électromagnétique direct, l'éruption solaire pouvait théoriquement produire un effet indirect en perturbant non pas le télescope, mais un autre satellite potentiellement plus sensible à ces phénomènes. De nos jours, des centaines de satellites de constellations étaient lancés chaque semaine, et on ne pouvait pas exclure un tel scénario. Keiko arriva tôt le lendemain matin pour s'attaquer au plus vite à la question qui lui avait été posée. Pour commencer, elle décida de recenser tous les satellites qui avaient été lancés dans les 10 jours qui précédaient le 16 juillet, et pas seulement les satellites des constellations, même si elle se doutait qu'ils représenteraient la très grande majorité. De nombreux satellites prenaient plusieurs jours avant d'arriver sur leur orbite définitive, et c'était à ce moment-là qu'ils étaient les plus vulnérables à une variation soudaine de densité de la très haute atmosphère. L'effet naturel était un freinage atmosphérique accru qui précipitait le satellite vers une orbite plus basse et donc vers sa désintégration lors de sa retombée. Mais il existait certains cas de figure dans lesquels l'échauffement additionnel pouvait endommager le système de navigation et produire un déclenchement inopiné du système de repositionnement qui pouvait produire une brutale accélération dans n'importe quelle direction, pas seulement vers le bas, mais aussi vers une orbite plus haute. C'était dans ce cas une perte de contrôle totale, et un tel satellite devenait alors un débris de grande taille et de grande masse qui ne retomberait que plusieurs années plus tard, si ce n'est plusieurs dizaines d'années plus tard. Keiko avait étudié différents cas qui s'étaient produits dans la dernière décennie. Elle savait qu'elle ne devrait négliger aucun type de satellite, hormis peut-être ceux qui n'avaient pas de système de repositionnement, mais ils étaient désormais minoritaires. La JAXA avait demandé un soutien aux Américains de la NASA et du Space Surveillance Network, le SSN, pour élucider la perte de X-RISM. Grâce à cet accord au plus haut niveau, tous les ingénieurs et chercheurs japonais de la cellule d'investigation avaient chacun la possibilité de mettre à contribution un ou plusieurs ingénieurs du Orbital Debris Program Office de l'Agence spatiale américaine ou bien du SSN, qui dépendait des militaires de l'US Space Com. Keiko savait que les équipes de modélisateurs s'étaient déjà rapprochées de la NASA pour pouvoir utiliser leur code de modélisation des débris, ORDEM-33, Sa base de données répertoriait des débris d'une taille comprise entre 10 microns et 1 mètre et était mise à jour tous les ans désormais. XRISM en ferait bientôt partie. Les débris déjà existants n'étaient pas ceux sur quoi Keiko devait travailler. En revanche, elle aurait besoin des militaires américains pour avoir les informations les plus récentes et les plus précises sur des pertes de satellites. Elle savait qu'il ne fallait pas se fier aux informations des compagnies privées qui lançaient des satellites relais par dizaines chaque semaine. Il était évident qu'elles avaient toujours minimisé leurs échecs, et cela dès leur début à la fin des années 2010. Keiko décida de contacter le SSN en passant par le chef de la cellule, le docteur Watanabe, parce que c'était des militaires. Avec la NASA, elle n'aurait pas trop pris de pincettes. Elle souhaitait avoir un contact qui pourrait lui fournir des informations fiables sur les pertes de satellites dans les jours qui suivaient leur lancement, notamment concernant Skylink, qui était toujours de loin le leader sur le marché. Des cas de perte de satellites par Skylink avaient été rapportés dans les années précédentes, mais depuis l'été 2023, qui avait vu plus de 200 unités perdues en l'espace de seulement 2 mois, Skylink s'était complètement muré dans le silence au sujet de ses échecs. Seuls les officiels des agences gouvernementales devaient être en mesure de fournir des informations suffisamment fiables. Et concernant les satellites chinois, là, c'était encore plus obscur pour le grand public. Même la population chinoise ignorait l'ampleur du déploiement de la constellation Guowang de la compagnie d'État China Satnet. On savait juste que ça existait. Mais le SSN devait très probablement en savoir beaucoup plus. Suite à sa demande, Keiko fut rapidement mise en contact avec une certaine Laurie Cortez du réseau de surveillance militaire américain. Le réseau américain avait été bâti pour assurer la surveillance de l'espace grâce à de nombreuses installations radar situées un peu partout dans le monde. Son objectif principal était de catégoriser et d'identifier tous les objets en orbite pour donner l'alerte en cas d'attaque de satellite. Le SSN avait construit une énorme base de données qui rassemblait les horaires de passage de tous les satellites qui passaient au-dessus des armées états-uniennes où qu'elles se trouvent dans le monde, c'est-à-dire sur tous les continents. La base de données du SSN devait pouvoir cartographier la position actuelle des objets en orbite ainsi que prédire leur trajectoire future. Historiquement, l'objectif de l'ancêtre du SSN dans les années de guerre froide avait été d'éviter qu'un objet spatial rentrant dans l'atmosphère terrestre et qui aurait ressemblé à un missile sur une détection radar ne déclenche une fausse alerte du système antimissile des États-Unis ou d'autres pays. C'est aussi le SSN qui informait la NASA lorsqu'un objet s'approchait trop près de la Station spatiale internationale, afin qu'elle fasse une manœuvre d'évitement pour ne prendre aucun risque de collision. Ces manœuvres étaient de plus en plus fréquentes depuis quelques années. On en comptait désormais plusieurs par an. Après avoir expliqué le périmètre d'action du SSN à Keiko, Laurie Cortez, qui était une employée civile dans cette unité de la Space Force, proposa à Keiko de se parler directement en visio plutôt que par email. Le rendez-vous fut pris pour le surlendemain. Il y avait 10 heures de décalage horaire. Il était 10 heures plus tard à Bedford, dans le Massachusetts, par rapport à Sagamihara. Mais Keiko pouvait travailler depuis chez elle une partie de la semaine. Et cette entrevue très matinale, planifiée à 6 heures, était finalement une bonne occasion. Elle n'avait pas télétravaillé depuis très longtemps. Bonjour, Madame Cortez, lança Keiko après qu'elle eut aperçu le visage de son interlocutrice sur l'écran. Bonjour Keiko, vous pouvez m'appeler Laurie. Keiko fut un peu décontenancée, puis elle se reprit. Bonjour Laurie, je suis très heureuse de pouvoir travailler avec vous sur ce sujet qui est très important pour notre agence. Mais c'est tout à fait naturel, Keiko. Nos pays travaillent main dans la main dans le domaine spatial et militaire. Ce qui est arrivé à votre satellite, à votre télescope, est très inhabituel et mérite d'être éclairci rapidement. Oui, c'est tout à fait ça, répondit Keiko. Puis la jeune ingénieure détailla à Laurie Cortez, qui était visiblement à peine plus âgée qu'elle, quel était son rôle au sein de la cellule d'investigation de la JAXA, tout en expliquant quelles actions étaient en cours du côté de ses collègues. Donc, vous cherchez une cause par collision avec un autre satellite? Pour ce qui me concerne, oui, soit une collision directe ou bien une collision avec un débris qui serait issu d'une fragmentation d'un satellite venant tout juste d'être perdu lors de son insertion orbitale. Dans les deux cas, on pense à un effet de l'éruption solaire du 13 juillet, soit par une déstabilisation par l'effet d'augmentation de densité atmosphérique, ou soit via une perte de contrôle qui pourrait être liée à l'échauffement associé. Mes collègues, eux, s'intéressent aux débris anciens déjà catalogués. Vous avez raison, hein, d'explorer ces possibilités, répondit Laurie. X-Rism était à 550 km, c'est bien ça? Oui, c'était son orbite avec une inclinaison de 31 degrés. Et est-ce que la JAXA savait que c'était l'altitude de la couche principale des Skylink, 550 km? Lança Laurie d'un air interrogatif. Je crois que X-Rism a été conçu avant le déploiement massif des premières constellations. L'agence ne pouvait pas modifier l'altitude du télescope. Il était fait pour fonctionner sur cette orbite, répondit Keiko, qui ne savait pas trop quoi répondre et qui ne voulait pas répondre au nom de la JAXA. Depuis 4 ans, c'est une couche qui devient très encombrée. De plus, une inclinaison de 31 degrés, ce n'est pas très favorable. Pourquoi? Demanda Keiko. Eh bien, la constellation Skylink, pour ne parler que d'elle, est déployée massivement à 550 km et avec une série d'inclinaisons différentes, dont une à 33 degrés et une rétrograde à 148 degrés, ce qui est équivalent à 32 degrés mais dans l'autre sens. Vous voulez dire qu'on n'aurait pas forcément besoin d'un effet atmosphérique pour avoir une collision entre un satellite de Skylink et X-Rism? Disons que les orbites sont très proches. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, bien sûr. Il faudra analyser plus en détail. Mais il suffirait d'un défaut de positionnement sur cette orbite, trop rapproché de votre télescope, par exemple, pour qu'une différence de vitesse conduise à une collision. Mais un défaut atmosphérique de l'un de ces satellites de constellation, qui était prévu sur une inclinaison proche du vôtre, pourrait aussi conduire facilement à une collision, malheureusement. Est-ce que vous pouvez savoir si les lancements qui ont eu lieu dans les 10 jours précédant l'éruption ont conduit à des pertes de certaines unités? Oui, bien sûr. Je vais vous sortir ces données dans la journée et je vous les transmettrai tout de suite. Nous suivons absolument tous les lancements partout dans le monde, ne vous inquiétez pas. Vous aurez une réponse exhaustive. Et est-ce que certaines compagnies ont déjà annoncé une perte depuis le 13 juillet? Non, pas à ma connaissance. Mais de toute façon, hein, elles ne communiquent plus sur les pertes qu'elles subissent. Le milieu est devenu trop concurrentiel, répondit Laurie. Et vous avez des informations des Chinois? Nous avons un réseau de radars très performant, vous savez. Rien ne nous échappe. Nous pouvons comptabiliser le nombre de satellites insérés en orbite par les lanceurs chinois et le nombre de ceux qui ont une trajectoire anormale et qui retombent dans l'atmosphère. Je vois, ok, merci beaucoup. Donc, la période qui m'intéresse en premier, hein, c'est du 3 juillet au 16 juillet, à l'heure de l'impact de X-Rism, c'est-à-dire 17h13, heure japonaise. Donc, 3h13 chez vous, le 17 juillet. Certains trains de constellation peuvent mettre plus de 10 jours hein, pour rejoindre leur orbite finale, vous savez. Pour être plus sûr, je vais vous sortir une plage plus étendue. On va prendre 20 jours. Ça vous va? Demanda l'analyste au regard bleu intense. C'est parfait. Merci encore. Je suis très heureuse de travailler avec vous, rétorqua Keiko. De rien. J'ai envie de vous aider à résoudre ce problème. Les débris spatiaux et la surpopulation de l'orbite basse sont devenus extrêmement inquiétants. Du moins, je trouve personnellement que c'est très inquiétant. Si cette action de la JAXA peut faire avancer les choses dans le bon sens, hein, j'en serais très heureuse. Nous avons des intérêts en commun, vous voyez. Je vous envoie la liste des lancements et des pertes de satellites sur la période dans quelques heures. La vision n'avait pas duré très longtemps, mais Keiko était ravie de voir comment son interlocutrice du SSN avait pris son problème comme si c'était le sien. On sentait qu'elle n'aimait pas trop la façon avec laquelle s'étaient développées les constellations de satellites depuis 5 ans, notamment Skylink. Keiko savait que l'altitude de X-RISM était proche de celle des Skylink, mais elle ne savait pas auparavant que certains d'entre eux avait une inclinaison quasi similaire à celle de X-RISM, et pire, que certains, avec cette inclinaison, étaient rétrogrades. Cela signifiait qu'ils croisaient forcément le télescope à une distance qui pouvait être assez faible. Et on n'imaginait pas ce que produirait une telle collision frontale entre deux éléments ayant chacun une vitesse de 28 000 km/h. En cherchant plus d'informations sur les orbites exploitées par Skylink, Keiko vit que la société américaine essayait de couvrir un maximum de territoire en plaçant ses satellites sur de nombreuses inclinaisons différentes entre 33 degrés et 148 degrés, dont une qui était quasi polaire à 98 degrés. En répertoriant les caractéristiques orbitales des différentes couches de la constellation de Skylink, et en redécouvrant qu'il y en avait une sur une orbite à 8 degrés de l'orbite polaire en sens rétrograde, Keiko repensa soudain au fameux essaim de débris du satellite russe Cosmos 1408, qui était lui aussi sur une orbite à 8 degrés de l'orbite polaire, mais dans le sens normal. Son inclinaison était de 82 degrés. C'était un satellite qui avait été détruit volontairement par les Russes par un tir de missile balistique en novembre 2021. Alors que le satellite se trouvait initialement sur une orbite de 650 km d'altitude, l'essaim de plus de 1680 débris d'une taille supérieure à 10 cm au départ en contenait encore un peu plus de 600 aujourd'hui et se trouvait maintenant dispersé entre 300 et 1100 km. Avec une inclinaison toujours proche de 82 degrés. Un millier avait fini par rentrer dans l'atmosphère et y brûler, mais les débris résiduels étaient là pour de très nombreuses années. La grande étendue spatiale de l'essaim de débris de Cosmos 1408 et sa forte inclinaison pouvaient produire des zones de rapprochement avec de nombreux autres satellites, dont l'inclinaison était plus faible. La Station spatiale internationale avait d'ailleurs subi plusieurs alertes et des manœuvres d'évitement liées à cet essaim de débris incontrôlé. Keiko savait que certains de ses collègues de la cellule d'investigation étudiaient cette hypothèse en particulier, parce que c'était de loin l'essaim de débris le plus important qui était répertorié, qui plus est avec une dispersion et une inclinaison très défavorables. Keiko se demandait pourquoi ce genre de test destructif en vraie grandeur n'était pas tout simplement interdit par les conventions internationales. Il fallait dire que les Russes n'étaient pas les premiers à effectuer ce genre de démonstration absurde. Ils étaient même les derniers. Les premiers à l'avoir fait étaient les Américains, dès 1985, en pleine guerre des étoiles contre l'Union soviétique d'alors. Ils détruisirent le satellite Solwind qui se trouvait à 555 km d'altitude. Puis ce furent les Chinois qui détruisirent un de leurs satellites météo, nommé Fengyun 1C, à 865 km d'altitude en 2007, suivi par les Indiens en 2019 qui visèrent un de leurs satellites situé en orbite basse. À la différence du satellite chinois qui produisit des milliers de débris centimétriques et décimétriques, l'Indien n'en laissa presque aucun, grâce à son orbite très basse. Le mail de Laurie était horodaté de 19h15. Il était 9h15 chez Keiko. Il contenait une pièce jointe cryptée, dont la clé avait été envoyée par l'analyste américaine dans un second envoi juste après le premier, avec les instructions pour l'ouvrir. Keiko consulta rapidement le fichier qui contenait un tableau avec des dates dans la première colonne, un nom de pays dans la seconde colonne, un nom de société dans la troisième, un nom de lanceur dans la quatrième, puis venait ensuite le nombre de charges utiles emportées, qui était suivi d'un nombre de charges utiles mises en orbite nominale, puis le nombre d'unités n'ayant pas atteint l'orbite nominale, et enfin, dans la dernière colonne, le nombre d'unités étant rentré dans l'atmosphère avec une date associée. Le nombre qui intéressait Keiko était le résultat de la soustraction du nombre d'unités n'ayant pas atteint leur orbite, moins celles qui avaient brûlé dans l'atmosphère, donc l'avant-dernière colonne moins la dernière colonne. Laurie n'avait malheureusement pas ajouté cette colonne. Ce n'était rien à faire. Keiko ajouta cette colonne en quelques secondes, avant même de regarder plus en détail qui avait lancé quoi entre le 27 juin et le 17 juillet, heure de la côte est américaine. Keiko venait de constater que la colonne qu'elle venait d'ajouter ne contenait que des zéros quand la sonnerie de la visio retentit. C'était Laurie Cortez. Nous avons un problème, Keiko. Merci pour le listing, commença la jeune japonaise. Un problème ? Oui, il y a une incohérence dans le fichier que je t'ai envoyé. J'ai vu qu'aucun satellite ne manquait à l'appel. Si je soustrais le nombre d'orbites non atteintes et le nombre de retombées, il n'y en a eu qu'une, d'ailleurs, le satellite indien. Tu as regardé le deuxième onglet du tableur ? Demanda Laurie, qui avait un visage beaucoup moins souriant que quelques heures auparavant. Le deuxième onglet ? Non, pas encore. Dans cet onglet, on trace les positions définitives des satellites, telles qu'elles sont déclarées par les opérateurs. Il s'agit des paramètres orbitaux stables, donc juste après l'insertion en orbite. Ok, je vois la liste, répondit Keiko, qui avait cliqué au bon endroit. Tu peux voir que dans la liste des satellites Skylink, il en manque deux par rapport à la liste des lancements et retombées du premier onglet. Qu'est-ce que ça signifie ? Lança Keiko naïvement. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans ces données. En revanche, celles du deuxième onglet proviennent des opérateurs eux-mêmes et ils ont l'obligation légale de transmettre à l'organe de régulation leur position définitive. S'il en manque dans cette liste, par rapport à la liste du premier onglet, qui est issue de nos données d'observation, cela veut dire que deux satellites Skylink ont atteint leur orbite nominale, sans défaillance et sans retombée, mais que 10 jours plus tard, ils ne répondaient plus. Ils ne répondaient plus ? Et c'était à quelle date ? On le sait ? Demanda Keiko. Tout ce qu'on connaît, c'est leur date de lancement, qui est le 8 juillet. Tu peux le voir dans le premier onglet, et ils font partie de la charge utile du lancement Skylink 992. C'est les unités 992008 et 992023. Tu peux voir que tous les autres sont positionnés sur leur orbite à la date du 18 juillet, 10 jours plus tard, sauf ces deux-là. Ce sont les dates du fuseau Eastern Time ? Oui, pardon, j'aurais dû le préciser, tu dois enlever 10 heures pour toi. Donc, le 8 juillet, ils sont lancés, on sait qu'ils sont bien arrivés en orbite, mais le 18 juillet, ils ne répondaient plus. Et X-RISM n'a plus répondu le 17 juillet à 3h17, heure américaine, dit Keiko. C'est ça, et nous ne connaissons aujourd'hui pas leur position. Et est-ce qu'on peut penser que ces deux satellites auraient pu subir une collision avec un débris comme notre télescope ? Demanda Keiko. C'est tout à fait envisageable, comme il est tout à fait envisageable que l'une de ces deux unités, ou des fragments de l'un d'eux, soit responsable de votre perte, répondit l'analyste. Et est-ce que l'on peut demander à Skylink quand ils ont reçu des données de ces deux satellites pour la dernière fois ? Ça nous aiderait à éclaircir les causalités. Ça peut se jouer à quelques heures. S'ils étaient encore en vie après 17h13, le 16 juillet, heure de Tokyo, on pourra exclure leur fragmentation comme cause de la perte de X-RISM. Skylink pourrait vous donner cette information ? Demanda Keiko à Laurie. Si nous leur demandons officiellement, ils devront nous donner cette information. Mais n'oublie pas que si les satellites ne répondaient plus un jour après la perte de X-Rism, c'est peut-être parce qu'ils ont fait une collision directe avec votre télescope. Ils pouvaient très bien être en vie jusqu'à 3h13. D'ailleurs, si cela ne te dérange pas, j'aimerais que nous parlions toujours avec le fuseau Eastern Time, en référence temporelle. Ça évitera les erreurs. Ok, ça me va. Quand tu parles de collision directe, je comprends, mais avec deux satellites en même temps, ça paraît très peu probable, non? Je pensais à un scénario de type Kessler, répondit Laurie. Tu vois de quoi je parle? Oui. Le premier Skylink aurait pu entrer en collision avec X-Rism, produisant des dizaines de fragments qui auraient pu ensuite atteindre rapidement le deuxième Skylink, qui était sans doute non loin de là. Dans ce cas, ce pourrait même être des fragments de X-Rism qui seraient à l'origine de la perte du deuxième Skylink, tu vois? Oui, je vois. Keiko était songeuse. Après quelques secondes, elle ajouta « Il faut quand même savoir jusqu'à quand ces deux satellites étaient en vie. C'est très important. Et il faudrait aussi savoir si des débris seraient apparus avant 3h13 aux environs de la position de X-Rism. Parce que dans le scénario que tu as décrit, on peut aussi le voir dans l'autre sens. Les deux satellites Skylink auraient pu se collisionner entre eux quelques heures avant et que leurs fragments aillent détruire X-Rism. C'est vrai, ça marche dans les deux sens, tu as raison. Pour remonter dans le temps, ça ne va pas être facile. On a détecté et caractérisé l'essaim de débris autour de X-Rism juste après sa perte, suite à la demande expresse de la JAXA et de la NASA. Mais pour savoir s'ils étaient déjà là en partie avant 3h13, c'est une autre affaire. Vous avez des observations archivées? Demanda Keiko. Oui, bien sûr, nous conservons tout. Je vais lancer une procédure de recherche spécifique concernant l'orbite probable de ce train de satellite 992 du 8 juillet. Il est possible que l'on puisse trouver un excès de débris sur cette trajectoire dans les archives des radars durant la période. En parallèle, nous allons demander des informations à Skylink sur la date de leur dernière communication avec le 992008 et le 992023. « Merci beaucoup !» répondit Keiko.